Quand nos enfants étaient petits, nous leur avons appris des chansonnettes toujours un peu drôles, comme celle du fakir Anana Rusta qui dit « Dans du mar de café, je vous dirai la vérité », etc. Aujourd'hui, ce ne sont pas les prophètes et les prophéties qui manquent, sans compter les diseuses de bonne aventure et les gitans qui lisent dans les lignes de la main ou qui tirent les cartes. Mais comment savoir qui dit vrai et est-ce que toutes les prophéties d'origine divine se trouvent dans les textes sacrés? Oui et non est peut-être une réponse évasive, mais c'est aussi la bonne. En effet, Jude mentionne une prophétie qui remonte à l'époque antédiluvienne, mais qui n'apparaît nulle part, noir sur blanc, dans l'Ancien Testament. Je continue à lire sa lettre. Aux apostats aussi s'applique la prophétie d'Enoch, le septième patriarche depuis Adam, qui dit « Voici, le Seigneur va venir avec ses milliers d'anges », verset 14. Ces paroles sont similaires à ce qu'on peut lire dans un livre apocryphe intitulé « Livre d'Enoch », un ouvrage dont Jude a déjà tiré l'étrange histoire qui raconte que l'archange Michel lui-même, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, se garda bien de proférer contre lui un jugement insultant. Il se contenta de dire « Que le Seigneur te punisse ». De là à penser que le livre d'Enoch avait sa place sur la table de chevet de Jude, il n'y a qu'un pas. Mais non, Jude connaissait ces histoires parce qu'elles faisaient partie de la tradition juive. Comme je l'ai dit, il n'existe aucune référence à la prophétie d'Enoch dans l'Ancien Testament. Dans le livre de la Genèse, Enoch figure dans la généalogie des premiers hommes et on peut y lire son histoire qui est un bol d'air frais dans une atmosphère étouffante où plane la mort. Ce passage du livre de la Genèse est en fait une longue rubrique nécrologique qui souligne au crayon rouge le sort final de chaque personnage. Adam mourut, Seth mourut, Enoch mourut, Kenan mourut, Mahalaleel mourut, Yéred mourut. Ce passage prouve bien que l'Éternel ne plaisantait pas quand il a dit à notre ancêtre Adam « Mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. De celui-là n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Cependant, et alors que les noms des morts sont égrenés un à un, nous sortons soudainement du cimetière. Le texte dit « Quand Enoch fut âgé de 65 ans, il eut pour fils Mathusalem. Après cela, Enoch conduisit sa vie sous le regard de Dieu durant 300 ans et il eut d'autres enfants. La durée totale de sa vie fut de 365 ans. Enoch vécut en communion avec Dieu, puis il disparut car Dieu le prit auprès de lui. Au lieu de mourir comme tout le monde, Enoch fut enlevé dans les cieux. » La fin extraordinaire de ce patriarche, sur lequel nous avons très peu d'informations, est une image, ou plutôt un court-métrage, de l'enlèvement de l'Église, comme l'explique l'apôtre Paul dans l'une de ses épîtres. En effet, tout comme Enoch fut enlevé dans les cieux avant le jugement du déluge, l'Église de Jésus-Christ, qui comprend l'ensemble des croyants qui se sont véritablement soumis à lui, seront enlevés dans les cieux, échappant ainsi à la première phase du jour de l'Éternel, qui s'appelle la tribulation et qui durera 7 ans. Durant cette période, Dieu déchaînera sa colère contre ce monde en phases successives. Le livre de l'Apocalypse décrit le jugement des sceaux, des trompettes et des coupes. La deuxième moitié des 7 ans de tribulation sera particulièrement terrible parce qu'au châtiment que Dieu infligera à notre planète, s'ajoutera un règne de terreur organisé par l'Antéchrist qui persécutera à mort les Juifs et ceux qui auront placé leur foi en Jésus après que l'Église aura été enlevée. Les 7 ans de tribulation se termineront en apothéose avec la bataille d'Armageddon. Puis le Seigneur Jésus reviendra sur terre afin d'exécuter un jugement final sur les nations qui verra la fin de tous les ennemis de Dieu. L'apôtre Paul écrit « Dieu a fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice par un homme qu'il a désigné pour cela, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. » Nous aimerions bien connaître la date, ou tout au moins l'année, quand tous ces événements se déclencheront, mais c'est impossible. Après le retour de Jésus, Satan sera lié et le Seigneur établira son règne terrestre à Jérusalem pendant 1000 ans. À la fin de cette période, et assez curieusement, Satan sera relâché. Dieu ne nous donne pas plus la raison de cette remise en liberté qu'il nous a donné la raison pour laquelle il avait permis au diable de prendre l'apparence du serpent pour tenter nos premiers parents. Quoi qu'il en soit, à peine Satan a-t-il retrouvé sa liberté, qu'il prend aussitôt la tête d'une rébellion composée de foules innombrables contre le Messie. Cette prophétie me laisse perplexe, car comment se fait-il qu'après un règne de justice et d'équité de 1000 ans, le diable ait pu rassembler des multitudes prêtes à se dresser contre Dieu? En tout cas, ce soulèvement mondial est rapidement écrasé et cette fois-ci, c'est vraiment la fin de Satan et de ses émissaires, car ils sont jetés dans l'étang de feu pour l'éternité. Cette sentence finale est prononcée au moment du jugement du grand trône blanc, communément appelé le jugement dernier. Et c'est aussi à ce moment-là que Dieu fixe le châtiment de tous les mécréants de tous les temps. En résumé donc, la première phase du jugement de Dieu sera terrestre et aura lieu pendant la tribulation, et la seconde se déroulera au pied du trône de Dieu. Bien que Enoch ne soit pas l'auteur du livre qui porte son nom, son message a été transmis par la tradition orale jusqu'à ce qu'il soit mis par écrit vers la fin du second siècle avant Jésus-Christ. Ce livre, à l'instar d'autres ouvrages comme le livre des Jubilés, Testament des 12 patriarches ou Assomption de Moïse, que Jude a déjà cité, n'est pas inspiré, ce qui explique pourquoi il ne fait pas partie du canon de l'Ancien Testament. Cependant, le fait que Jude cite cette prophétie signifie qu'elle est vraie. Le livre d'Enoch se compose d'une suite de révélations qui auraient soi-disant été données par l'Éternel à Enoch et Noé. Son objectif est de montrer que c'est Dieu qui dirige les affaires des hommes et que tous les pécheurs seront punis. Ce livre apocryphe était connu des Juifs, et donc des premiers chrétiens juifs ainsi que des pères de l'Église du second siècle de notre ère. Il disparut de la circulation pendant des siècles, à l'exception de quelques fragments. Puis, au XVIIIe siècle, on en trouva une copie complète dans une Bible éthiopienne. Les paroles de Jude concernant la prophétie d'Enoch ne sont pas introduites par la formule technique « comme dit l'Écriture » ou « il est écrit » qui soulignerait qu'elles sont inspirées de Dieu. Comme je l'ai dit, Jude, en tant que juif, connaissait cette histoire traditionnelle d'Enoch. Mais comme il l'a intégrée à sa lettre, reconnue inspirée de Dieu, c'est qu'elle est vraie. Cependant, cela ne veut pas dire qu'il a simplement copié ce qu'il a lu dans le texte apocryphe. En effet, il existe des différences entre ses paroles et celles du livre d'Enoch, ce qui pourrait vouloir dire que les deux auteurs ont puisé à une même source extra-biblique, ou encore que sous l'inspiration divine, Jude authentifie la tradition orale concernant Hénoc. Il faut bien comprendre que Jude mentionne ce passage du livre d'Hénoc dans le même esprit que l'apôtre Paul qui, dans son discours sur la place d'Athènes, a cité des auteurs païens connus de ses auditeurs pour étayer ses arguments. Si Jude a tiré la prophétie du livre d'Hénoc, il n'a fait qu'affirmer qu'elle était vraie, sans pour autant approuver tout le livre. L'apôtre Paul cite un poète crétois, ce qui ne veut pas dire qu'il était d'accord avec tout ce que cet auteur a écrit. Bien qu'elle n'ait pas été incluse dans le canon biblique de l'Ancien Testament, la prophétie d'Hénoc est la première qui fut donnée par un homme. En fait, elle a précédé de plusieurs siècles les paroles de Moïse, du juge Samuel et des prophètes de l'Éternel. Je continue la lettre de Jude. Voici, le Seigneur va venir avec ses milliers d'anges pour exercer son jugement sur tous et pour faire rendre compte à tous ceux qui ne le respectent pas de tous les actes qu'ils ont commis dans leur révolte et de toutes les insultes que ces pécheurs sacrilèges ont proférées contre lui. Verset 15. La prophétie d'Hénoc est premièrement dirigée contre les apostats qui contestaient le retour du Christ, car elle enseigne au contraire que le Seigneur reviendra, une certitude que l'apôtre Pierre a également soulignée. Deuxièmement, cette prophétie dit que Jésus ne reviendra pas seul, mais qu'il sera accompagné de ses milliers d'anges, littéralement sainte myriade. Il pourrait s'agir des croyants qui ont été enlevés avec l'Église. Toutefois, dans le Nouveau Testament, quand il est question de jugement, ce sont des anges qui accompagnent le Seigneur et qui lui servent de bourreau, en quelque sorte. Troisièmement, le retour du Seigneur aura pour but précis de juger les impies, ceux qui n'auront fait aucun cas de la loi de Dieu. Le verbe traduit par « faire rendre compte » signifie « dévoiler, réprimander, prouver la culpabilité de quelqu'un ». Lorsque le Seigneur reviendra, les péchés des impies seront mis en lumière, puis la sentence suivra. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, la prophétie d'Hénoc mentionne le mot « impie » 4 fois. On pourrait la rendre de la façon suivante. Voici, le Seigneur va venir avec ses milliers d'anges pour exercer son jugement sur tous et pour faire rendre compte à tous ceux qui sont impies envers lui à cause de tous les actes impies qu'ils ont commis dans leur façon impie de se conduire et de toutes les insultes que ces pécheurs impies ont proférées contre lui. Cette insistance sur le mot « impie » montre que l'attitude de l'homme en révolte contre Dieu est fondamentalement inique. Ce n'est pas pour rien que le prophète Jérémie écrit que le cœur de l'homme est tortueux plus que toute autre chose, et il est incurable. Bien que la prophétie d'Hénoc concerne tous les mécréants, elle cible davantage les apostats puisque c'est le sujet de la lettre de Jude, et aussi parce que ce sont eux qui répandent des mensonges concernant Jésus-Christ, ce qui augmente d'autant plus leur culpabilité. Je continue le texte. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent en fonction de leurs mauvais désirs. Ils tiennent des discours hautains et flattent les gens pour en tirer profit. Verset 16. Ces gens sont évidemment les renégats qui menacent l'Église. Ici, Jude met l'accent sur les fautes commises avec la langue. En grec, l'expression « gens qui murmurent » est un adjectif qui n'apparaît que dans cette lettre. Ces gens murmurent contre la providence de Dieu et se plaignent de ses lois. Ce sont des murmureurs, sauf que ce mot n'existe pas. Son équivalent grec décrit l'attitude du peuple d'Israël qui murmura contre Dieu. Je résume ce passage. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, Au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Jusque à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Parler contre l'Éternel n'est pas un petit péché, car il a coûté la vie aux Hébreux. Le texte dit « Aussi vrai que je suis vivant, parole de l'Éternel, je vous traiterai selon les plaintes que vous m'avez exprimées. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous qui avez été recensés, vous qui avez donc 20 ans et plus, puisque vous vous êtes plaints contre moi, en aussi grand nombre que vous êtes. » Non seulement les apostats murmurent contre Dieu, mais ils se plaignent de lui, un adjectif qui signifie « celui qui blâme », un blâmeur, sauf que ce mot n'existe pas. Ces deux adjectifs, côte à côte dans le texte grec, mettent l'accent sur le comportement outrancier et hautement condamnable des enseignants de mensonges. Le drame est qu'une mauvaise attitude, un mauvais esprit est facilement contagieux. Dans le Nouveau Testament, il est écrit « Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. » Deuxièmement, Jude reproche aux apostats de marcher en fonction de leurs mauvais désirs, selon leurs convoitises et pulsions du moment. L'apôtre Pierre utilise la même expression pour décrire les non-croyants. En troisième lieu, dit Jude, ces gens tiennent des discours hautains. Ce mot n'est utilisé qu'ici et par l'apôtre Pierre. Il signifie enflé, gonflé, arrogant. Les apostats ont un langage pompeux dont la spiritualité n'est qu'un vernis sans substance parce qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. Quatrièmement, ils flattent les gens pour en tirer profit. La fable de la fontaine, le corbeau et le renard est sans aucun doute l'une des plus connues, tout comme sa morale qui est « tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute ». Les apostats traitent les autres en fonction de leur propre intérêt. Jacques, frère de Jude, écrit « Mes frères, gardez-vous de toute forme de favoritisme. C'est incompatible avec la foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Supposez en effet qu'un homme vêtu d'habits somptueux portant une bague en or entre dans votre assemblée et qu'entre aussi un pauvre en haillons. Si voyant l'homme somptueusement vêtu, vous vous empressez autour de lui et vous lui dites « Veuillez vous asseoir ici, c'est une bonne place. » Tandis que vous dites au pauvre « Tenez-vous là, debout, ou asseyez-vous par terre, à mes pieds. Ne faites-vous pas des différences parmi vous et ne portez-vous pas des jugements fondés sur de mauvaises raisons. » Les faussaires religieux du temps de Jude, comme ceux d'aujourd'hui d'ailleurs, sont par nature des manipulateurs hors pair qui excellent dans l'art de caresser ceux qui les écoutent dans le sens du poil pour gagner quelques faveurs et soutirer d'eux un avantage financier ou autre. De toute évidence, Jude connaissait bien l'épître de son frère et l'avait peut-être même sous les yeux quand il a rédigé sa lettre, parce qu'il reprend plusieurs de ses thèmes. En effet, les deux frères fustigent les flatteurs, ceux qui se plaignent de leur sort ou qui agitent leur langue d'une manière incontrôlée. À ce sujet, ils ne font que confirmer l'enseignement de Jésus qui a dit « Ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est cela qui rend l'homme impur. » Les paroles des hérétiques révèlent le fond de leur cœur. Ils se plaignent de Dieu, ils sont amers, hypocrites, cupides, dépravés, égoïstes et hautains. Alors que j'étudiais la théologie, j'ai commencé à m'intéresser aux religions du monde et aux sectes d'origine chrétienne en particulier. À une certaine époque, j'ai lu tout ce que j'ai pu trouver sur les Mormons et les témoins de Jéhovah parce que je voulais comprendre comment ils s'y prenaient pour amorcer le chaland et faire des disciples. Je me suis rendu compte que la personne ainsi que la première génération qui furent à l'origine de chacun de ces mouvements religieux étaient des gens dans l'erreur, mais sincères. Par contre, à partir de la seconde génération de dirigeants, la ligne directrice principale était la manipulation. Tout ce que dit Jude des apostats de son temps est applicable à tous les chefs de secte. Au premier siècle, les assemblées chrétiennes étaient isolées les unes des autres et leurs membres étaient souvent harcelés par les païens, ce qui rendait leur situation précaire. Comme les moyens de communication de l'époque étaient très rudimentaires, les églises n'avaient que des contacts limités entre elles. Il n'était donc pas très difficile à un loup, quelqu'un doté d'une forte personnalité et de mauvaises intentions, de se déguiser en brebis, puis de s'infiltrer dans une assemblée, de s'imposer et de commencer à dévorer les brebis chétives.